France Info.
Vaccins qui ont fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis l'annonce de l'obligation de 11 vaccins pour les enfants. Ils seront indispensables pour une admission en crèche ou à l'école, sauf contre-indication médicale. Alors au-delà de cette nouvelle obligation vaccinale, que penser des vaccins? On en parle avec Robert Cohen, pédiatre, coordinateur du réseau d'information sur les vaccins Infovac. Bonjour.
Bonjour.
Et Lise Barnéou, journaliste, auteur du livre « Immuniser, un nouveau regard sur les vaccins » chez Premier Parallèle. Vous êtes en duplex de France Bleu Drôme. Bonjour.
Bonjour.
On va commencer par vous, Robert Cohen. En ce qui concerne ces 11 vaccins obligatoires, est-ce que ça veut dire 11 vaccins dans une seule piqûre?
Non, ça ne veut pas dire 11 vaccins dans une seule piqûre et ça ne veut pas dire non plus 11 nouveaux vaccins. C'était des vaccins qui étaient recommandés pour la plupart et qui deviennent obligatoires. Il n'y a pas de nouveaux vaccins.
Lise Barnéou, en matière de vaccins, on parle de balance bénéfice-risque. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors c'est comparer les bénéfices qu'apportent ces vaccins versus les risques que comporte n'importe quelle intervention médicale. Et ce qu'on peut dire sur ces 11 vaccins pédiatriques, c'est que ce sont effectivement ceux qu'on utilisait déjà depuis plusieurs années et qui possèdent la balance bénéfice-risque d'un point de vue individuel, c'est-à-dire pour la personne vaccinée, comme d'un point de vue collectif, donc pour l'ensemble de la société. Donc ces 11 vaccins possèdent des balances bénéfices-risques les plus connues, les plus bénéfiques en tout cas des vaccins pédiatriques qui existent, parce qu'il en existe plus que 11.
Vous avez parlé de l'individu, moi je vais maintenant parler d'altruisme. On évoque souvent, pour inciter les personnes à se vacciner, un acte altruiste. Ça veut dire quoi, Robert Cohen?
Alors, il y a plusieurs vaccins qui protègent non seulement l'individu, mais qui empêchent par exemple le virus ou la bactérie d'être présent dans le nez, dans la gorge ou dans le tube digestif. Ne le portant pas, je ne peux pas le transmettre aux autres. Et ça, c'est très important parce qu'il y a une partie de la population qui n'est pas vaccinée, certaines pour de bonnes raisons, parce qu'ils sont immunodéprimés, parce qu'ils ont des pathologies sous-jacentes. Et en se vaccinant, on les protège aussi. Donc, je me protège moi-même, mais en ne portant plus le microbe, en ne portant plus la bactérie, je protège aussi les autres.
Il faut quel taux de vaccination pour arrêter la circulation d'un virus?
Alors, ça dépend du virus et de la bactérie. Par exemple, la maladie la plus contagieuse qu'on connaît, c'est la rougeole. Il faut que 95% de la population soit immunisée pour qu'on ne voit plus la maladie apparaître, même chez les non-vaccinés. Pour d'autres vaccins, c'est moindre. Par exemple, si je prends un vaccin contre l'hépatite B, on sait qu'on n'a pas besoin d'attendre 95% pour prévenir la maladie. Ça dépend, mais le plus important, c'est la rougeole. Ce chiffre de 95% est le maximum.
Lise Barnéou, vous écrivez dans votre ouvrage qu'un vaccin n'est pas une nécessité en soi, que c'est un choix parmi d'autres solutions. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Alors, je veux dire qu'il existe parfois plusieurs options à la fois de prévention ou bien pour traiter certaines maladies. Je prends l'exemple, par exemple, du vaccin contre les papillomavirus qui ne fait pas partie des 11 vaccins pédiatriques, qui est proposé plutôt pour les jeunes filles, d'éviter des cancers du col de l'utérus. Et bien pour ce cancer-là, par exemple, il y a un autre outil de prévention qui est le frottis. Et ce que j'explique dans mon livre, c'est qu'à un moment donné, on peut se poser la question d'investir dans un choix, donc soit la vaccination, soit le frottis, et que peut-être les deux sont à faire en parallèle, mais que en France, on a eu tendance à investir massivement dans la vaccination, ou peut-être aux dépens du frottis, et que je trouve que ce sont des choix effectivement qui doivent être faits et qui sont souvent pas suffisamment explicités, et on n'arrive pas à avoir toutes les informations pour comprendre dans ce cas-là précis, avec ce vaccin-là, dans cette situation-là, pourquoi on fait le choix 1 et pas le choix 2, sachant que dans des pays tout à fait similaires aux nôtres, on fait d'autres choix.
Est-ce que ça veut dire, Robert Cohen, que certains vaccins sont inutiles?
Non, je crois que je comprends ce que vient de dire madame, c'est-à-dire que la prévention des maladies infectieuses ne repose pas que sur la vaccination, fort heureusement. L'exemple de la grippe, vous avez pris le papillomavirus, il y a l'exemple de la grippe. Si on se contente que du vaccin sans quelques mesures d'hygiène et sans de temps en temps quelques médicaments pour prévenir les plus fragiles, on n'y arrivera pas. Pour les papillomavirus, je voudrais insister, c'est qu'il ne faut pas opposer la vaccination au dépistage. Malheureusement, le dépistage n'est pas suffisant. Parce qu'on sait que malgré le dépistage, il y a quand même des cancers du col qui se produisent. Malheureusement, la vaccination ne sera pas suffisante. Donc, souvent, en matière de maladies infectieuses, il faut les deux. La prévention par une autre technique et puis la vaccination.
Lise Barnéou, Robert Cohen, on se retrouve dans quelques instants.